Isabelle Coupé-Soubéran, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à Paris 1 Sorbonne. Vous êtes spécialiste de l'économie monétaire et financière que vous enseignez. Donc, vous avez sorti un livre en compagnie de Christophe Nijam, qui est analyste indépendant. Parlons banque en 30 questions. Qu'est-ce qui a justement guidé cet ouvrage? On a aujourd'hui une idée qui serait un peu fausse des banques, de ce que c'est qu'une banque en 2014.
Je crois, si vous voulez, qu'on a un gros besoin de compréhension des problèmes bancaires aujourd'hui. Et je crois qu'il faut essayer de faire comprendre ce qu'est une banque, à quoi ça sert, comment ça fonctionne et comment ça dysfonctionne. Alors, sans tomber dans le bank bashing du Café du Commerce, et puis sans non plus, si vous voulez, épouser le discours des représentants du secteur bancaire que l'on entend très souvent s'exprimer et qui, lorsqu'ils s'expriment, c'est bien normal, eh bien, représentent avant tout les intérêts du secteur bancaire, mais pas ceux de la collectivité. Donc là, nous nous adressons aux citoyens et on essaie d'expliquer aux citoyens ce qu'est une banque, à quoi ça sert, comment ça marche, en montrant que c'est fondamentalement utile. L'économie a besoin des banques, l'économie réelle a besoin des banques pour bien fonctionner, mais en montrant aussi qu'une banque, c'est une institution extrêmement fragile. La crise financière l'a amplement démontré. Il y a des efforts qui sont entrepris aujourd'hui pour essayer de resserrer le cadre d'activité des banques, pour resserrer la réglementation des banques. Toute la question, c'est de savoir si on est allé suffisamment loin.
Justement, effectivement, pour les citoyens, si on les interrogeait en sortant de ce studio, ils diraient que les banques sont responsables de la crise, pour une part en tout cas. Aujourd'hui, est-ce que la réglementation, puisqu'il y a eu une réglementation qui a été mise en place, a changé un peu la donne? C'est-à-dire que est-ce que c'est plus compliqué, les banques peuvent pas faire les mêmes opérations qu'elles faisaient, ou finalement, ça change peu de choses?
Écoutez, je crois que le citoyen a raison quand il attribue une part de responsabilité aux banques dans la crise actuelle. Il y a tout un faisceau de causes, mais les banques ont leur part de responsabilité parce qu'elles ont pris trop de risques, mais dans un contexte qui permettait, voire même qui encourageait cette prise de risque. Dans un contexte où la réglementation et la surveillance de la réglementation, c'est-à-dire la supervision, étaient insuffisantes, et dans un contexte où les politiques monétaires qui étaient menées, eh bien, étaient des politiques monétaires très accommodantes. Alors vous me direz, de ce point de vue-là, malheureusement, les choses n'ont pas trop changé parce que on est obligé de le faire également en situation de crise. Mais au début des années 2000, eh bien, les politiques monétaires étaient très accommodantes. L'argent n'était pas cher, pour le dire simplement, pour les banques, et ça a permis aux banques de prendre beaucoup de risques. Il y a un autre facteur, je crois, très important à souligner, c'est que, au fond, les gouvernants, un peu partout, dans tous les pays, ont encouragé la formation de très grands groupes bancaires. Ces groupes bancaires ont été donc encouragés dans leur stratégie de croissance et ils ont bénéficié, en fait, d'une garantie implicite, voire même explicite parfois, de sauvetage des pouvoirs publics. Tout cela, ça a été pris en compte par les marchés, ça a été pris en compte par les agences de notation et les investisseurs ont accordé de la valeur à ces garanties. Si bien que les investisseurs ont progressivement accepté d'acheter des titres émis par les banques à moindre coût que pour des entreprises de même taille, des entreprises non financières de même taille. Résultat des courses, ces grandes banques ont réussi en fait à se financer de moins en moins cher sur les marchés de capitaux et donc elles se sont endettées massivement et ainsi ont pu énormément grossir tout en se fragilisant et c'est cela, si vous voulez, qui en grande partie a conduit à la crise actuelle. Alors, où en est-on
Oui, parce
aujourd'hui?
qu'on pourrait dire, hein, pour donner un ordre d'idée, hein, même si c'est encore un peu compliqué à évaluer, mais le total des actifs, hein, par exemple en France, de certaines banques, c'est 4 fois la création de richesse annuelle de la France. Donc, pour donner un peu ce que ça veut dire, parce que quand on parle de 1 000 milliards de dettes, personne ne sait ce que c'est, là non plus, mais ça montre le poids aujourd'hui du secteur.
Alors, vous avez tout à fait raison de souligner que le poids du secteur bancaire est encore énorme, et ce, en dépit de la crise. On pouvait s'attendre à ce que que la crise contracte considérablement l'activité bancaire, eh bien manifestement, il n'en a rien été. Effectivement, le secteur bancaire français, c'est 4 fois la création annuelle de richesses dans le pays. La France, c'est un cas assez représentatif d'ailleurs de la moyenne européenne, mais c'est bien en dessous, par exemple, de ce que l'on constate au Royaume-Uni avec un secteur bancaire qui pèse 6 fois le PIB, 6 fois le produit intérieur brut du Royaume-Uni. Quand on regarde également, si vous voulez, quand on essaie d'évaluer le poids des établissements bancaires, des grands groupes bancaires, on constate des groupes toujours énormes en France comme ailleurs. Alors en France, on a 4 grands groupes systémiques. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que des réformes ont été entreprises. Les banques sont obligées aujourd'hui de détenir relativement plus de fonds propres qu'elles en détenaient avant la crise. Elles sont également obligées, si vous voulez, eh bien de respecter des règles de liquidité qui ne les contraignaient pas du tout avant la crise, qui n'existaient pas avant la crise. Se mettent en place également des dispositifs, alors aussi bien au niveau européen qu'ailleurs, notamment aux États-Unis, des dispositifs qui vont permettre de mieux résoudre les difficultés des banques. Donc on avance, mais on avance un peu et on n'avance pas trop vite. Et je crois que les régulateurs avancent en faisant face à des lobbies bancaires extrêmement, extrêmement actifs qui sont capables d'organiser une vraie résistance.
Alors les banques, hein, si, quand on les écoute, disent finalement ça nous bloque dans nos possibilités d'investissement, de financement d'entreprise. On est contraint par ces nouvelles réglementations, hein, Bâle 3 pour s'en rentrer dans le détail que les spécialistes connaissent, mais en disant finalement cette réglementation-là nous empêche et crée même de la décroissance.
Alors ça c'est le discours, effectivement, c'est le discours du lobby bancaire. D'accord. Donc le discours du lobby bancaire, ça consiste à dire, eh bien attention, si vous nous réglementer trop, si vous poursuivez cet effort de réglementation, eh bien, nous ne pourrons plus distribuer autant de crédits qu'auparavant et la croissance en pâtira. Je crois qu'il faut vraiment se méfier de ce discours parce que, premièrement, il n'est pas certain que tous les crédits qui étaient distribués avant la crise étaient bien alloués. D'accord ? Les crédits qui étaient distribués avant la crise, c'était des crédits qui allaient davantage à l'immobilier et à la consommation qu'à l'investissement productif des petites et moyennes entreprises, par exemple. Donc il y avait un gros problème d'allocation du crédit. Par ailleurs, le crédit qui était distribué avant la crise l'était peut-être en quantité excessive. Alors, là encore, hein, dans certains secteurs, plus que dans d'autres. Ça, si vous voulez, c'est un problème que les économistes commencent à bien souligner. Avant la crise, tout le monde était convaincu que plus de banques, plus de crédits, plus de finances, c'était nécessairement plus de croissance. Eh bien, aujourd'hui, il y a pas mal de travaux académiques qui s'accumulent pour montrer qu'on a dépassé un certain seuil. Hein, et qu'au-delà de ce seuil, eh bien, plus de finances, plus de crédits, ça n'entraîne pas plus de croissance. Au contraire, on peut, si vous voulez, aboutir même à une relation négative entre les deux. Donc, d'une part, si vous voulez, si les banques doivent respecter plus de fonds propres, peut-être, effectivement, que ça entraînera moins de crédit. Mais si ce crédit est mieux alloué, eh bien on ne s'en portera pas plus mal. Et en outre, ça ne signifie pas nécessairement moins de crédit parce que, au fond, lorsque les banques doivent détenir davantage de fonds propres, eh bien elles peuvent émettre pour certaines davantage d'actions, c'est pas impossible. Elles peuvent aussi mettre en réserve davantage de bénéfices qu'elles ne le font normalement. Donc il ne leur est pas totalement impossible d'augmenter leurs fonds propres. Quand c'est difficile d'augmenter les fonds propres, alors certes ça peut signifier, si vous voulez, moins d'actifs, mais moins d'actifs, ça signifie pas nécessairement moins de crédit. Ça peut signifier aussi moins d'activité de marché, par exemple. Donc, tout dépend ensuite de la façon dont les banques réallouent leur actif, leur portefeuille d'actifs.
Alors, le sujet, sans doute, du moment pour les épargnants, c'est de se dire, effectivement, est-ce qu'ils ont confiance dans leur banque ? Alors, on voit qu'effectivement, le travail est long, en tout cas du côté des banques, pour retrouver cette confiance. Et puis, on voit de temps en temps le FMI parler des dépôts dans les banques. Donc, il y a certains particuliers qui peuvent nous regarder en ce moment, qui vont se dire, est-ce que mes dépôts sont garantis dans les banques ? C'est un sujet qui, on sent dans cette période de crise, hein, qui revient régulièrement.
Oui. Alors je crois qu'il faut souligner la fragilité des banques, mais si vous voulez, pour alerter les citoyens et leur dire qu'il faut absolument encourager le mouvement de renforcement de la régulation financière et ne pas trop se laisser paralyser, hypnotiser par le discours du lobby bancaire qui dit qu'on en a fait suffisamment. Je crois pour autant qu'il ne faut évidemment pas faire paniquer les citoyens. Les citoyens doivent savoir que les dépôts qu'ils ont en banque sont garantis jusqu'à 100 000 euros par établissement et par déposant et qu'il faut absolument, si vous voulez, renforcer le cadre pour que précisément en cas de difficulté, eh bien, ce ne soient pas les déposants en tant que contribuables qui soient mis à contribution, mais bien les banques elles-mêmes, c'est-à-dire leurs actionnaires et les créanciers.
Eh bien, voilà, il y a 30 questions. On n'a pas pu, bien sûr, toutes les aborder avec vous, mais donc le livre s'appelle Parlons Banque en 30 questions. Merci, Jezabel Coupé-Soubéran, d'avoir été avec nous.
Merci à vous.